Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers. Tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
Toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Et si aujourd'hui on parlait d'humour ? Il y a l'humour de tous les jours, l'humour privé, l'humour public, l'humour de courtoisie, l'humour plus limite et il y a ceux qui décident d'en faire leur métier. Si l'on dit que l'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, qu'en est-il des humoristes qui tentent de mettre à nu leur humour devant des centaines d'inconnus ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui au Café des Métiers Johan Bertetto, élément phare de l'humour nantais. Et oui, depuis 4 ans, Johan arbore les scènes nantaises principalement, mais également des scènes dans toute l'Europe, dans un but précis et loin d'être banal, de faire rire, tout en partageant ses expériences et ses observations sur la vie. Mais Johan est également à l'origine d'un projet fou, la création du Micro Comedy Club, le premier comedy club nantais, ouvert il y a 4 ans. Embarquons ensemble dans une discussion au cœur de la création de sketchs et de la vie d'artiste. Bonjour Johan.
Salut Charlotte.
Bienvenue au Café des Métiers et merci de venir nous partager ton expérience au micro de Prune.
Avec grand plaisir.
On va commencer tout de suite par mettre les pieds dans le plat, Johan. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire dont tu m'as parlé avec un plateau d'humour qui t'aurait blacklisté et qui aurait précédé de plusieurs refus par la suite de plateaux d'humour?
Ah oui, on commence direct, d'accord, ok.
Tout okay, de suite,
okay,
oui.
Ok, super, super. Alors, je reviens un petit peu, comment dire, au début du... Quand j'ai commencé à Nantes, il y avait un seul gros plateau qui s'appelait le West Side Comedy Club. Mmh. Qui existe toujours, d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans.
Sur l'île de Nantes.
Sur l'île de Nantes, voilà, en gare à bananes. Et c'était vraiment la seule scène de stand-up qui existait vraiment. Il y avait un autre petit plateau qui se lançait juste à ce moment-là, le Stand-Up Factory. Et en fait, je vais jouer une fois, deux fois au West Side. Et en fait, c'était mauvais, quoi. Ce que j'ai fait, c'était vraiment... C'était vraiment nul. C'était même pas du stand-up. C'était un mélange de personnages, de je m'adressais au public, un genre de choses.
Tu jouais des rôles un petit peu
Un petit peu, oui. Je faisais le rôle d'un formateur Pôle emploi qui motivait des chômeurs pour retourner travailler. Je ne ferais pas les blagues parce que sinon, je serais...
ça serait une mauvaise pub.
Cancel, mais direct, ça passait. Ah ouais, là. J'ai revu une vidéo qui était sur Facebook que j'ai virée très rapidement. J'ai réussi à sauver ma carrière. Et du coup, je joue deux fois. Et puis, je redemande pour jouer. Et on me dit, non, là, c'est pas possible vu ce que tu as fait les dernières fois. Non, on va te laisser travailler. Et en fait, à ce moment-là, j'ai de l'ego, je me remets pas en question. Et puis je dis, les autres, ils ont pas eu de rire aussi, je vois pas pourquoi. Nanana. Et en fait, les programmateurs, sur le moment, ont dit, écoute, c'est plus la peine d'envoyer de message, terminé, on te reprogrammera pas, reviens plus. Et là, à ce moment-là, moi, je commence juste à faire des blagues. Commence juste à faire des blagues et mets-toi à ma place. Le seul plateau qui est important, on peut jouer devant du monde, me dit c'est terminé. Donc vraiment, à ce moment-là, j'étais à me dire j'arrête, en fait, ça sert à rien, il faudrait que je bouge de ville ou machin.
Et à ce moment-là, lors de ces premières scènes, tu comptais déjà en faire ton métier ou c'était
non,
pour le test?
Ouais. Absolument pas. Non. Moi, quand j'ai commencé à faire des blagues, c'était absolument pas le plan. C'était vraiment c'était un hobby. Je trouvais ça même ringard, ceux qui se lançaient pour en faire un boulot. Moi, c'était en mode waouh, je vends des cuisines, je gagne bien ma vie. J'ai pas tout remettre en question. Et la vie a fait son chemin. Mais en fait, à ce moment-là, là où j'ai eu ce passage, en fait, c'est que je me suis dit non. J'aime trop ça, je vais devenir too big to fail, en fait. Je vais aller sur les autres petits plateaux, quitte à créer d'autres plateaux pour jouer, et je vais devenir trop bon pour qu'on ne puisse pas me laisser jouer. Et là, je me suis dit, là, après, par contre, je ne peux plus continuer dans me mettre des œillères ou quoi que ce soit. J'ai regardé vraiment ce que j'avais fait. J'ai fait, oui, bon, effectivement, je suis monté sur scène, j'ai fait un énorme caca sur scène. Je suis parti en mode fier comme un coq, il faut que j'arrête ça. Et j'ai tout repris à zéro. J'ai appelé des potes humoristes, hein, mais vraiment là, au téléphone, en pleine journée. J'aurais dit, écoute, là, je sais que je n'y arrive pas, je sais que je ne suis pas drôle. Est-ce que tu as un conseil à me donner ? J'ai vraiment viré tout l'orgueil de ça et me dire voilà, je me suis complètement mis à nu, puis j'ai eu des bons conseils, j'ai eu des conseils qui s'adressaient pas à moi en fait, qui marchaient pas avec moi, mais j'ai écouté et j'ai bossé jusqu'à ce que en fait le deuxième plateau devienne limite plus important que le premier, le West Side. On avait plus de gens, on avait plus de fréquences, on faisait plus de chapeaux, hein, c'est comme ça que ça commence.
Tu as créé la concurrence.
On parlait même pas de concurrence à l'époque parce que c'était plus il y avait tellement rien que même le West Side en avait besoin, parce que ça permettait aux humoristes de travailler avant de venir et ça montait le niveau des deux. C'était vraiment de la collaboration là-dessus. Et un jour, j'apprends que donc au Stand Up Factory, il y a les organisateurs du West Side, ceux qui m'avaient blacklisté, qui viennent. Et là, moi, je vais faire la chauffe. Donc, c'est arrivé comme maître de cérémonie au début et passer. Et là, j'ai une trouille. Et je me dis, non, là, c'est mort. Ça fait un an que je bosse pour ça, il y a dû avoir un an entre les deux. Là, j'y vais, je défonce tout. Et ça s'est super bien passé.
Super.
Les gars sont venus, ils m'ont rien dit en début, parce que vous n'avez pas à dire « Ah mince, désolé ». Et je suis allé les voir, et j'aurais serré la main, je les ai regardés, j'aurais fait « Je suis désolé de comment j'ai réagi. J'étais un bébé stand-up, je suis encore un bébé stand-up. Je sais maintenant ce que c'est de programmer des humoristes aussi, de gérer un plateau, parce que c'est une expérience qui est particulière. Quand on l'a pas en tant qu'humoriste, on se dit « Oh bah tout est simple, je peux demander des choses. Ah, bah c'est... » Non, c'est un enfer organiser des plateaux quand tu veux faire des blagues à côté. Et voilà, je me suis excusé. Et ils m'ont dit « Waouh, ah bah c'est... merci. » Et bah écoute... Là, maintenant, c'est encore, il y a la prog, mais on te rappellera pour avoir des dates. Et j'y suis repassé, ça s'est très bien passé. A continué. Voilà.
C'est super, ça donne envie de se battre pour réussir à donner vie à ses rêves. Et qu'est-ce qui a fait que, malgré ce premier échec, tu as eu envie quand même de te battre et de continuer, alors que tu n'avais pas spécialement envie d'en faire ton métier ?
Bah, ton jingle est très bien fait pour ça. À un moment, doute, espoir et passion.
Oui.
Voilà, bah, c'est en fait que ça. Hein, c'est que c'est une maladie mentale de faire des blagues. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était un hobby. C'est devenu une passion. Après, une obsession. Et à un moment, je dis, là, bah, en fait, je suis obligé de passer le cap. En fait, j'ai passé 6 mois. J'ai voulu tester. Donc, je vendais des cuisines avant. J'étais chez une marque très célèbre de cuisinistes. La.
Ouais,
voilà. J'ai rien dit. Voilà. Et je me suis dit, mince, je commence à gagner un peu de sous en faisant des blagues. Je devais gagner 200, 300 euros par mois. Moi, je n'ai aucun problème avec les sous. Hein, pas cette pudeur française. Je suis très ricain là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux. Imaginons. J'y vais au max, parce qu'il y a souvent, on me proposait des plateaux. Je dis, bah non, demain je travaille. Aller à Angers, revenir à 1h30 du matin, demain je me lève, non. Et en fait, j'ai fait, bah allez, maintenant, c'est comme si je ne travaille plus. Et je faisais tous les plans pendant 6 mois. Je suis arrivé à, je faisais entre 600 et 700 euros.
Ok, en faisant plein de plateaux,
voilà, des comptes plateaux, proposés. Alors que en cash, uniquement que en cash. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, go. Je vais me lancer à temps plein, quoi. Donc j'ai réduit mon train de vie. Avant, j'avais une voiture, j'ai vendu la voiture. J'ai pris un appartement beaucoup plus petit. Je m'achetais un iPhone tous les ans. J'ai arrêté de ça. Je me suis pas acheté de fringues pendant 2 ans et demi. Vraiment,
tu revois tes priorités. Ah ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un statut d'indépendant ? Comment ça se passe ?
Non, un gros statut de chômeur.
Ouais, ok.
Voilà, un gros statut de chômeur. Et, parce que c'est le seul moyen de devenir intermittent du spectacle aujourd'hui. C'est malheureux. Là, on parle aujourd'hui des coupes budgétaires dans la culture, ce genre de choses. S'ils veulent faire des économies ou même un truc, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir intermittent du spectacle, tu ne peux pas faire de cachet et travailler en même temps. Donc, soit tu démissionnes, tu n'as rien et tu vis de tes quelques cachets, ce qui est impossible. Concrètement impossible. Le seul moyen, tous les intermittents que je connais aujourd'hui qui ont réussi à devenir intermittents, c'est avec une année de chômage avant. C'est parce que sinon, les cachets ne sont pas pris en compte. Et ça, je trouve que c'est une aberration.
Ouais. Ça permet un soutien financier, le temps de vraiment se...
Ah oui, obligé.
Question sur plutôt le processus d'écriture des blagues. parce que beaucoup se trouvent drôles en soirée avec des potes, en famille, au bureau, à la machine à café. Mais faire rire devant un public et de préparer en amont ses blagues, c'est une autre chose. Est-ce que tu as un processus particulier d'écriture ? De quoi tu t'inspires au quotidien ?
Alors, sur le processus d'écriture, quand tu parlais, comparé avec les, d'être drôle au canapé avec des potes, c'est marrant cette image parce qu'on l'utilise souvent. C'est que c'est à la fois pareil et différent. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Le stand-up, c'est réussir à reproduire ce que tu as en soirée, en terrasse, où tu fais marrer tes potes, tu reviens. Et donc, c'est cette base-là qui est pareille. Et après, dans professionnaliser les choses, c'est de réussir à reproduire cette magie à chaque fois, avec à quel moment tu fais une pause, comment tu magnifies les images pour que l'image soit très simple à comprendre, très visuelle, que tout le monde ait la référence, et de revenir, de retravailler dessus. Moi, comment j'écris, je pars d'une idée. Généralement, c'est quelque chose qui m'énerve. Voilà, c'est un truc qui m'énerve à la base. Pratiquement toutes mes blagues viennent de ça.
Dénoncer quelque chose que tu as observé.
Observer, ou des fois pas forcément un truc qui me... Je fais pas des blagues, je suis pas là pour faire des blagues qui dénoncent la société, qui oh là là, mon Dieu, on n'y avait pas pensé à ça, je fais des blagues débiles, vraiment. J'ai aucune prétention, mais c'est des choses qui me marquent, c'est des choses de ma vie personnelle. Je parle là dans mon spectacle, je parle beaucoup de ma vie à 37 ans, de comment je suis en fait, comment je me vois vraiment maintenant avec l'âge qui avance, de politique, de voilà, est-ce que je peux encore être de gauche à 37 ans, voilà, plein de sujets qui me touchent beaucoup. J'ai fait d'autres spectacles qui étaient plus sur des choses qui me sont arrivées. J'ai fait une heure entière sur une rupture, quand j'étais dans le milieu polyamoureux, échangiste, voilà, un spectacle qui s'appelait Poly. Voilà, donc là, ça parlait plutôt d'un milieu en particulier. Et voilà, ça vient de là, une idée qui m'énerve. C'est vraiment comme une étincelle. C'est vraiment une étincelle. Des fois, ça arrive, je suis en train de faire la vaisselle ou je rentre chez moi le soir, je suis dans la route et puis je suis dans ma tête. C'est un peu les limbes, ça part de partout et j'ai boum. Et il y a un truc qui me fait marrer.
Et est-ce que quand tu as cette idée-là, cette étincelle, t'arrêtes tout et tu te mets à écrire ou tu la gardes pour plus tard ?
C'est l'idéal, oui, vraiment. Non, faut noter tout de suite déjà l'idée de base, la plus précisément possible. Et surtout, c'est trouver l'énergie. Moi, c'est une petite boule qui est au niveau du plexus. Je le sens quand je fais mes blagues, j'essaie de retrouver ça, d'avoir ce truc-là, et ça part tout seul. Donc, c'est sur le téléphone ou c'est très rarement quand je suis en train d'écrire ou j'ouvre mon ordi ou j'ai mon cahier.
Donc, tu te fais des sessions comme ça où tu te dis là, il faut que je trouve des blagues.
Ah, c'est tous les jours.
Ouais.
Ah ouais, c'est tous les jours.
Et ça vient à ces moments-là quand même ?
Généralement, non, pas dans ces moments-là. Ces moments-là, c'est plus réécrire, relire. Revoir, organiser. Des fois, il y a une blague qui va marcher, qui ne marche pas au début. J'ai commencé un sketch de 12 minutes, je vais commencer à cette blague-là. Ça ne marche pas pour un début, ce n'est pas bon. Donc, j'ai change de couleur dans mon texte, je la mets de côté. Et puis, hop, ah, bah oui, je vais la mettre à paire et la blague sur le tabouret. Et hop, et en fait, et là, elle est beaucoup plus drôle parce que c'est démêler des nœuds. C'est un tas d'idées qui me viennent, que je note sur le téléphone, sur le cahier, sur l'ordi. Généralement, c'est plus sur le téléphone. Et après, c'est de revenir. Je me pose au moins 2 heures par jour. J'ouvre et puis je reclasse, je remets, je peaufine. Et de temps en temps, j'ai des idées. Mais les plus grosses idées vraiment fédératrices qui vont donner un 10 minutes, c'est en buvant un coup.
Ça vient spontanément.
En regardant un truc à la télé. Voilà. Ouais. Voilà.
Donc l'inspiration vient à n'importe quel moment.
Voilà. Bah là, le dernier sketch là que je suis en train de faire, c'est sur les concessions en couple, parce que là, je suis en couple depuis ça va faire presque un an, et c'est venu d'un anniversaire où elle m'invite au restaurant pour mon anniversaire, et puis je lui dis on reste un petit peu, on prend un dessert. Elle me fait non, faut pas qu'on reste, je suis trop mal garé, faut pas que la marée monte. Et je fais quoi, et en fait elle s'était garée sur la pente des bateaux à 30 mous. Voilà, tout le temps. Et en fait, je parlais là, j'ai fait ah mais oui, mais ça, c'est une bonne base. Et j'ai revu en fait toutes les choses et j'ai fait ah mais je vais faire des blagues sur ma copine. Et en fait, j'ai parlé de ça aussi, de comment elle, son point de vue, c'est d'être sortir avec un humoriste et moi, de faire des concessions. Elle doit faire des concessions sur le fait qu'on est en couple, donc je vais faire des blagues sur elle.
C'est génial. Donc, utiliser l'humour pour parler des soucis du quotidien.
Le Café des Métiers, un ou une invitée. Une foule d'expériences.
Donc actuellement, Yoann, tu proposes un spectacle que tu joues depuis plusieurs mois. Quel est ton rapport avec le fameux syndrome de l'imposteur par rapport à ça ?
Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je pense que je l'ai passé dans le sens où, à partir du moment, en fait, les derniers spectacles, j'avais ça et j'osais pas. Pour les derniers spectacles, jamais je serais venu ici en parler et tout. J'aurais fait, ah ouais, mais non. Là, en fait, je suis arrivé à quelque chose où maintenant, je peux regarder quelqu'un droit dans les yeux et me dire, vas-y, viens. Viens à mon spectacle, viens voir, parce que j'en suis fier. Et je suis vraiment très content d'avoir réalisé ça. Et maintenant, en fait, je me dis, je ne peux pas avoir de sentiment d'imposteur plus que ça, parce que je ne suis pas connu. En fait, j'ai 5000 abonnés sur Instagram, localement, sur Nantes, on me connaît. Mais si demain, oui, je fais une vidéo qui pète, je prends 2 millions d'abonnés sur Instagram, là, peut-être la question pourra se reposer. Mais
le fait d'avoir un spectacle à soi, à son nom, avec ta tête sur l'affiche, est-ce que c'est pas particulier de se dire « Ah, les gens, ils payent pour venir me voir, raconter mes blagues que j'ai écrites, testées ?»
C'est particulier dans le sens où là, vraiment, tu as une plus grande responsabilité. Quand tu joues en plateau, il y a plusieurs humoristes. Mmh. Donc là, toujours un peu un moment, bon, tu sors, tu fais « Il y en a trois autres derrière !» Voilà, là, non, il n'y a que, comment dire, il n'y a que moi. Ouais. Et maintenant, j'essaie de tourner ce genre de plus. Ah, là, ils viennent que pour moi. Bah oui, bah, là, je me dis maintenant, j'ai des spectateurs, je vais les avoir pendant une heure. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte de réfléchir à tout l'ensemble pour qu'ils passent vraiment le meilleur moment. Attends, j'ai fait tout un travail de début de spectacle où je leur explique qu'est-ce qui va se passer, de pourquoi je suis heureux, moi, qu'ils soient là. Parce qu'en fait, les spectateurs, ils viennent, ils disent pour eux, ils ont payé une place, ils viennent voir un spectacle. Et ça rentre dans la mécanique du spectacle. Et en fait, de leur dire, moi, je suis un humoriste local, même déjà, il y a 30 personnes qui viennent me voir, c'est incroyable.
Et pourquoi ça te rend si heureux ?
Parce que j'aime, c'est le fait de faire rire quelqu'un, c'est l'un des rares sentiments et rapports humains que je comprends à 100%. C'est simple, efficace, tu fais quelque chose de drôle, l'autre rigole, le contrat est très très simple en fait. Et après tout le reste, tout ce qui est par rapport au deuil, par rapport au chagrin d'une personne, je ne sais jamais trop comment réagir en fait. C'est là, j'ai une amie qui a perdu son père il n'y a pas longtemps. Je n'ai aucune clé en fait pour comment réagir là-dessus. Et en fait, dans ce cas de figure-là, d'être en soirée ou devant un public et de faire rire, c'est quelque chose en fait qui est pour moi complètement naturel et que j'aime. Pour moi, c'est de la magie blanche.
Pour toi, ça a du sens et c'est simple comparé à d'autres relations, interactions au quotidien.
Bah, je pense qu'un vrai rire, il y a toujours le rire jaune ou les gens qui s'efforcent de rire, tu les vois généralement. Mais un vrai rire à gorge déployée, ça, c'est... Tu ne peux pas tricher avec ça, en fait. Tu ne peux pas faire semblant de rire comme ça. Et quand tu regardes, c'est complètement... Il n'y a aucune logique là-dedans.
En vrai, le principe de rire est super intéressant. Pourquoi on rigole ? Il y a plein de réactions qui sont en lien avec notre condition d'être humain. On en a besoin pour vivre, manger, avoir des envies. Mais rire, à quoi ça nous sert ?
C'est un bug. En fait, c'est une réaction à un bug du cerveau. C'est-à-dire le principe du rire, c'est la surprise c'est une réaction. En fait, c'est le cerveau qui comprend pas sur le moment ou qui a besoin de temps pour switcher. Et du coup, hop, on enclenche cette réaction-là. Et un exemple pour comprendre très bien, c'est une des règles de base du stand-up de l'humour, c'est la règle de 3. C'est je suis allé au marché, j'ai acheté une tomate, un concombre et un godemiché pour ce soir. Tu vois, enfin, mais
c'est qu'on s'y attend pas.
Voilà, en fait, tu mets le cerveau dans une direction. Ah bah tiens, bah, il a acheté des légumes, un légume, deux légumes, et boum. Et en fait, il y a même pas, c'est même pas une blague. En fait, c'est juste, tu mets le cerveau dans une logique, tu changes la logique, le cerveau ne comprend pas, rigole parce que il y a aucun sens. Ouais. Voilà, c'est exactement ça.
C'est une sacrée gymnastique, l'humour. Tu peux utiliser ce genre de processus, mais aussi parfois ça suffit pas. Il faut aussi amener les gens dans un univers, les faire visualiser ce que tu as envie de leur partager aussi.
Oui, il faut mettre de l'énergie sur tout ce qui est complètement... et là, dans le doute, c'est que des fois, tu vas faire des blagues, tu gardes exactement les mêmes mots, exactement la même intonation, c'est la même salle, il y a juste les gens qui changent, mais les gens sont composés de la même manière. Et une fois, ça va cartonner, une fois, il n'y a rien du tout. C'est à quel point... C'est un des seuls trucs, normalement, dans n'importe quoi, tu fais une mayonnaise, tu mets les ingrédients, tu mets bien les ingrédients, la mayonnaise, elle est réussie. Et bien là... Il y a beaucoup d'ingrédients, quoi. Et des fois, même en mettant les ingrédients, en fait, c'est que la réaction des gens, elle est à ce niveau-là. Et là, il faut réussir à faire avec ça, pas perdre, pied, continuer. Et je trouve ça incroyable.
Et je me pose une question, d'ailleurs, il y a ce processus de faire rire, mais il y a aussi le fait d'être seul sur scène face au regard des gens qui sont là uniquement pour te regarder toi. Comment tu fais pour gérer ça? Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, même sans parler de faire de l'humour, mais quelqu'un qui est un peu timide et qui a du mal à se confronter comme ça à autant de regards quand il parle en public?
Un conseil au début, en fait, généralement, pourquoi on a peur des gens quand on parle en public? C'est qu'on est seul et qu'il y a beaucoup de monde. Donc, à partir du moment où tu peux commencer à les regarder de manière individuelle, moi, quand je monte sur scène, je fais toujours cette chose-là. J'arrive, je pose mon pied de micro, je marque un peu mes repères. Je montre, voilà, c'est pas je vais commencer parce que c'est maintenant qu'il faut commencer, je vais commencer parce que je suis à l'aise. Donc, je pose, j'installe, je souris, voilà. Et en fait, je regarde toujours groupe par groupe. Et du coup, ça fait, en fait, ça divise les gens. Et c'est plus une grosse masse de gens, c'est plein de gens individuel. Et du coup, tu les regardes dans les yeux, petit sourire, tu fais ah, et je me fais des petites remarques dans la tête, hein, mais ça dure deux secondes. T'es, ah, t'as, ils sont venus à quatre. Ah, tiens, ah, ça doit être un couple. Ah, bah tiens, bah, lui, il est tout seul. Ah, bah tiens, j'aime bien son manteau. Et en fait, ça, ça descend. Ça, et faut pas oublier que la moitié des personnes, bah, 80% des gens de la salle n'oseraient pas faire.
Tout à
donc,
fait.
Faut se dire ça déjà. Et souvent les gens ils sont super bienveillants, donc il y a pas de, c'est très rare. Mais, ah t'es une merde.
Ouais.
Voilà.
Donc l'un de tes conseils ce serait d'individualiser en fait chaque personne et de pas juste voir le groupe
voilà.
Qui te regarde quand tu parles.
Parce que le groupe c'est une meute.
C'est plus impressionnant. Hein. Comme beaucoup de métiers, parfois on doit aller travailler alors qu'on en a pas envie. Parfois on est triste, parfois on n'a pas l'énergie de faire des blagues et d'être sympa. Alors comment on gère ça quand c'est l'essence même de ton métier de devoir être drôle et de s'exposer sur scène?
Eh ben là, je vais reprendre ta question dans le sens où, en fait, c'est justement un boulot. Quand tu es humoriste, tu travailles que quand tu as envie. Et ça, c'est l'un des gros, gros problèmes, c'est la constance. C'est-à-dire que moi, là, techniquement, là, ma date anniversaire de l'intermittence, c'est le 31 décembre. Techniquement, si je décide de rester dans mon lit un an, personne ne peut m'en empêcher. Personne va me donner d'ordre en fait pour dire les choses et toute la question c'est d'avoir envie et un sportif tu vois il doit se mettre en condition physique être prêt bien manger bien dormir bien se préparer. Un humoriste c'est un petit peu pareil dans le sens où bah tu peux pas faire des blagues, tu peux pas faire rire des gens si t'es pas bien dans ta tête, si t'es déprimé, si t'es pas en forme. Parce qu'il faut arriver, des fois, le public il a un peu froid, il faut y aller, il faut donner de l'énergie en fait. Donc il y a toute une question de discipline qui passe aussi par la fête. Et là, c'est un truc qui est très, très compliqué dans la vie d'humoriste, c'est qu'en fait, il faut faire la fête, il faut se lâcher. Et après, si tu te lâches trop, tu fais trop la fête, donc en fait, tu ne bosses plus la journée. Mais après, si tu te mets 8 heures par jour sur ton cahier à écrire, Tu vas raconter quoi?
Il va t'arriver. C'est de lâcher prise.
Voilà, ouais. Voilà, c'est lâcher prise, c'est aller en soirée, rencontrer des gens, parler, se marrer, oublier aussi d'être humoriste. Moi, j'aime bien être avec plein de monde et refaire des blagues, on va dire, à l'ancienne, comme canapé. C'est bon, là, je suis pas en train de faire du stand-up. Hein. Voilà. Après, l'avantage, c'est que bah, ça part très, très vite. Moi, j'ai le cerveau maintenant qui est complètement matrixé. Donc, quand je pars en soirée, que j'ai un bon public avec moi, des fois aussi, je me dis, oh, bah là, tu vois, on va se faire un petit plaisir. Et je pars dans un délire. Et après, bah, des fois, je prends 5 minutes sur le téléphone en mode, OK, on va noter ça, voilà, c'est un peu.
Ça reste en toi, c'est ancré. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre faire des choses qui nous font du bien. Et travailler.
Et travailler, et vraiment travailler, en fait. Moi, je vois beaucoup, là, au Comedy Club, au Micro Comedy Club, là, on a ouvert des classes pour les débutants qui veulent le découvrir vraiment dans les bonnes conditions. Moi, j'ai fait des lives Twitch pour, en fait, les gens, même qui n'osaient pas vraiment même venir voir un open mic ou jouer un open mic, je lui dis, bah, comme ça, vous restez à la maison. Et je donnais des conseils, mes points de vue. Et en fait, c'est de vraiment bosser, en fait. Parce qu'en fait, vu que personne ne contrôle ton travail à part le moment où tu es sur scène, tu peux rester 5 heures devant ta feuille et puis te dire « Ah, j'ai bien bossé pendant 5 heures ».
Il faut avoir une rigueur personnelle, c'est dur.
Oui, c'est dur. Bah, de toute façon, dans n'importe quel... En fait, l'avantage du salariat des boulots classiques, c'est qu'en fait, tu n'as pas le choix d'avoir la rigueur parce que de toute façon, tu as quelqu'un qui est sur ton dos. Là, il n'y a que toi. Des fois, le travail peut être beaucoup plus payant en ayant une bonne mentalité, un bon moment et une inspiration que de rester 8 heures sur la même chose
tout à fait.
Et de se bloquer. Voilà.
Bon, tout à l'heure, on parlait de fête, Johan. On va faire une petite pause musicale avec Adelphi Music Factory, Save Me. C'est Charlotte et on est toujours au Café des Métiers avec Johan. Après cette musique, on a effectivement envie d'aller faire la fête. Toi, Johan, qu'est-ce que tu aimes dans ce morceau particulièrement ?
C'est que c'est un morceau en fait que j'ai trouvé en diguant de la musique, comme disent les DJ, voilà, voilà, parce que j'ai fait 2-3 sessions de mix avec des potes humoristes qui font DJ aussi, et puis bah ils m'ont fait mixer au warehouse, les salauds. J'ai mixé au warehouse
ah,
dans
c'est
la.
Pas rien.
Ouais ouais, et première fois, voilà voilà, c'était la R2, on faisait le micro 360 au warehouse, et puis on avait la petite salle pour faire, et puis j'ai dit ah les gars, DJ Picsou il arrive très vite après 3 pintes, et ils m'ont mis dans le line-up, ils m'ont rien dit, j'ai eu 2 jours pour apprendre à mixer, et ça s'est super bien passé quoi.
Sacré défi.
Ouais.
Est-ce que si tu pourrais donner un conseil à un jeune humoriste là, qui aimerait se lancer et en faire son métier, est-ce que tu pourrais lui donner un conseil aujourd'hui ?
Très simple, ne quitte pas ton travail.
Continue. D'accord, le métier voilà. En parallèle.
Voilà, le métier en parallèle, quitte pas ton travail. Et que l'objectif, en fait, que tu quittes le travail, que tu te lances, c'est que uniquement que tu tournes, que tu es programmé, qu'on t'appelle. Et que, en fait, il faut que le travail devienne un obstacle. Et il ne faut pas que tu transformes ton travail en obstacle. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup. Il y a « Ah, je vais arrêter de travailler, comme ça je pourrais faire des blagues ». Non, 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 fais des blagues, tu ne sais même pas si t'es drôle. Tu sais pas si t'es drôle, tu sais pas si t'as envie de faire ça, c'est un taf. Hein. Un taf. Là, moi, cette semaine, j'ai fait l'aller-retour à Poitiers, l'aller-retour à Paris, l'aller-retour à Mayenne. Plus, je joue tous les soirs à Nantes au Micro Comedy Club, pratiquement. C'est un taf très agréable, mais c'est un boulot, c'est crevant.
C'est vrai qu'on voit que la partie fun de « Ah, t'es sur scène, tu fais des blagues, c'est cool », mais derrière, il y a des déplacements, de l'écriture.
C'est du transport, c'est de l'écriture. Voilà.
Est-ce qu'il y a des projets que tu souhaites mettre en place dans les années à venir ou des choses que tu aimerais modifier dans ton quotidien d'humoriste ?
Et bien là, aujourd'hui, en fait, c'est même là, dans les années maintenant, c'est de réussir à trouver en fait un contenu. Parce que métier d'humoriste aujourd'hui, pour remplir les salles, pour faire son spectacle, il faut avoir une visibilité sur, comment dire, sur les réseaux. Et je suis en train de travailler sur un format qui me plairait vraiment à moi. De trouver quelque chose que j'aimerais faire plutôt que m'imposer en fait les réseaux, de dire ah bah faut que je fasse du fast cam, de ouais vous avez remarqué Michel Barnier, ça me débecte. De trouver un format où je peux proposer quelque chose sur les réseaux qui me convienne, et surtout j'ai pas envie de faire de l'abrutissement général, parce que c'est on perd énormément de temps sur ces trucs là, mais je peux pas faire autrement, et de trouver quelque chose qui soit un peu malin, que les gens apprécient, que ça me permette en fait de pouvoir jouer dans des plus grandes salles. Donc là, d'accepter le fait de passer sur du digital, alors que j'ai complètement mis ça de côté depuis le début.
D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner peut-être ton compte Instagram ou
mais
des endroits
grand plaisir,
sur lesquels
Charles.
On peut te retrouver? Dis-nous tout.
Sur Instagram et sur YouTube aussi, c'est Johan, Y-O-A-N. Et .bto, voilà, yoan.bto.
Okay. Je mettrai
voilà.
La référence aussi sur Queen.net en dessous du podcast. Super. Eh bien, merci à toi, Johan, pour ton partage. On te souhaite plein de réussite. Et à bientôt au Micro Comedy Club.
Et bah demain soir à 21h30 pour mon spectacle au Micro Comedy Club.
Il reste des places.
Très, très peu.
Et quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers et tous les jours en podcast sur prune.net. Je vous souhaite une belle après-midi, travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et surtout prenez soin de vous.